La première, c'était en 2007, dans l'université de Feinstein, où en fait on l'a plongé dans un bain de glace et on a commencé à voir qu'il activait en même temps son système parasympathique, dont le repos, la digestion, et son système sympathique. Du coup, les scientifiques ont commencé à dire, si tu arrives à reproduire ça de manière récurrente et avec d'autres personnes, ça change toute l'histoire. On l'a injecté avec une endotoxine. Pareil, on l'a pas injecté le virus, c'était une endotoxine, c'était le virus E. coli. Et il l'a fait. Et au moment où il s'est fait injecter, il faisait sa respiration et il a eu aucun symptôme. Alors que tous les gens qui s'étaient fait injecter avaient de la fièvre, des tremblements, des maux de tête, des nausées.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life, choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Allez, salut tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui de recevoir Léandre sur 1000%. Salut Léandre. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis devenu instructeur de la méthode Wim Hof à partir de chez toi. On va pouvoir expliquer toute cette méthode et comment ça a démarré pour mon expérience aussi. Et on est accompagné de Pierre aujourd'hui de 1000%. Comment tu vas ?
Ça va super. Je suis pas très connaisseur de la méthode Wim Hof, même si j'ai une petite initiation. Donc j'aurai peut-être le même niveau de lecture que nos auditeurs. Ça permettra d'avoir un angle un peu plus novice, on va dire, sur les informations que vous allez proposer.
Et donc c'est super intéressant, tu vois, toujours d'avoir un différent niveau d'expertise. Et Léandre, il va pouvoir vraiment nous développer la méthode Wim Hof avec précision. Donc moi, c'est une méthode qui a changé ma vie dernièrement. L'année dernière, je suis devenu instructeur. C'est une méthode qui rallie la respiration, la force du mental et l'exposition au froid. Du coup, Léandre, je te laisse te présenter, nous dire, nous faire une petite description de ton histoire et commencer à nous dire comment cette méthode Wim Hof impacte ta vie. Je ressens, t'as créé le premier centre Wim Hof en dehors de la maison mère qui est en Hollande et aussi le centre en Pologne. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça ?
C'est une volonté commune entre Wim Hof, la méthode Wim Hof au sens plus large, la compagnie de la méthode Wim Hof, et ils m'ont fait confiance. Et donc, on a pris une maison dans le sud de la France. On en a fait un centre Wim Hof dirigé par un instructeur. Et Wim vient deux fois par an faire des stages. Et assez rapidement, d'ailleurs, je ne l'ai jamais annoncé, mais on va essayer de former les instructeurs. Non, on ne va pas essayer, on va le faire en français. Je sais pas, j'ai pas encore la date. On va faire l'académie en français. Puisque pour l'instant, toutes les formations certifiantes sont en anglais et en Pologne. Mais Wim n'a pas... il a une maison en Pologne, mais c'est une vieille maison de campagne. Et on forme les instructeurs à un hôtel. Et ils se sont dit, pourquoi pas aussi les former en France, en français. Et je crois que c'est le début d'une très belle aventure.
Oui, en plus, ton centre, il est dans le sud des Alpes. C'est un endroit super beau dans la vallée du Buëch. C'est vraiment un endroit magnifique. Tu vas pouvoir nous décrire tout ça. Comment cette méthode, comment tu pourrais la décrire à quelqu'un qui ne connaît pas la méthode Wim Hof ? Comment tu vulgarises ça à quelqu'un qui n'a aucune notion de cette méthode ?
Ok, c'est assez simple. C'est une méthode qui se base sur 3 piliers. La respiration, le froid et l'engagement mental, le mindset. Et ces 3 piliers, assez vite, on comprend qu'ils bossent en synergie. Et le but, c'est d'être plus fort, en meilleure santé et par là même plus heureux.
C'est vrai que, en fait, je vais raconter ma petite histoire. C'est que je pars en Afrique du Sud, je découvre les bains froids, je fais ça pendant 5 mois. Je reviens en France complètement fou du froid et tu m'ouvres les portes du centre France qui était c'était sold out et tu me permets de venir quand même et là je découvre la méthode et en fait je croyais que c'était que lié au froid, tu vois généralement les gens ils assimilent quand même la méthode juste à l'exposition au froid. Et donc, il y a cette respiration qui, moi, me touche en plein cœur. Et sur la première respiration, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, Léandre, sur ma première respiration chez toi, j'ai décidé de devenir instructeur Wim Hof. Et donc, souvent, ces respirations partagées, elles amènent aussi à une clairvoyance. On va pouvoir détailler tout ça. Et donc, je finis par partir en Pologne où tu étais encore là pour me former, pour devenir instructeur. Et ça a vraiment changé ma vie. Donc, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous décrire Wim Hof? Parce que parfois, on ne sait même pas que c'est quelqu'un.
Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes assimilent la méthode Wim Hof juste au froid. C'est parce que Wim Hof est connu sous le pseudonyme de The Iceman, l'homme de glace. Et comme on le connaît comme ça, on fait le lien avec le froid. Mais il faut bien différencier entre guillemets, le nom de scène, le nom de super-héros de Wim, et Wim Hof, l'homme qui a créé la méthode, en lien avec sa famille. Et sa méthode, dans le froid, est un pilier essentiel, mais il n'est pas plus important justement que la respiration et le engagement mental. Et d'ailleurs, quand ils ont commencé, c'était Wim et son fils, et ils faisaient des stages en Espagne, et ils n'avaient pas de glaçons. Hein. Donc au début, c'était plus sur le mental, la respiration et le mouvement. Parce que Wim était justement un yogi, et lui, il a commencé très tôt sa recherche. Wim, à 12 ans, il commençait déjà à se poser des questions sur le monde. À 17 ans, il a plongé dans un bain glacé, dans un lac gelé, et au moment où il a plongé, il a fait... Et il s'est senti présent, il s'est senti vivant. Et là où il avait cherché dans le bouddhisme, dans le sanskrit, tout ça, plein de réponses, il les a trouvées dans le froid. Et par la suite, avec ses recherches, il a développé aussi la respiration, il s'est investi énormément dans le yoga. Et à 35 ans, sa femme était atteinte de démence et s'est suicidée. Et donc, il s'est retrouvé avec 4 enfants et en bas âge. Et c'est ici, je pense, que ça a vraiment commencé, où il a utilisé du coup sa méthode, qui à la base n'était pas encore une, il a utilisé sa pratique pour aller tous les jours se baigner dans le lac. Respirer, il se levait à 4 heures du matin, en fait, pour survivre quelque part. Et il en a fait une mission en mode plus jamais. Et c'est que une vingtaine d'années plus tard, après plein de péripéties, et après plein de records du monde, parce qu'au début, il faisait ça pour toucher le peuple, les gens, mais aussi toucher la science, parce que la science a commencé à s'intéresser à lui, et quasiment au même moment, il s'est... unis avec son fils, Enam, et ils en ont fait une méthode. Parce que la science, au début, on le verra plus tard dans un autre segment, mais on pensait qu'il était juste surhumain. Au final, il n'y a pas de surhumain, on est tous pareils. Tous faits de sang, d'eau, de peau. Et ce qu'il fait, lui, il le disait, il en est capable. Tout le monde en est capable. Et du coup, ils ont packagé ça dans une méthode très simple, et j'insiste sur le mot simple, qui ne veut pas dire facile, mais la méthode, c'est très simple. C'est des exercices de respiration, de froid, et ça peut être une douche froide, et d'engagement mental qui regroupe le mouvement, des positions de yoga, ça peut être aussi tenir la planche, et ces trois piliers imbriqués ont des effets énormes, et on le verra plus tard, sur la santé et sur le bien-être.
Tu vois, souvent je dis qu'en fait c'est disponible, accessible et bénéfique. En fait, c'est des choses qui sont gratuites pour se faire du bien, en fait. Hein. Et... J'ai l'impression que l'histoire de Wim Hof, elle se fait en 3 temps. C'est d'abord un temps personnel où il rencontre des difficultés, il s'accroche à ses piliers. Puis après, il fait des records du monde. Donc du coup, il devient célèbre autour de ça. Et puis après, il a une envie de partager. Et il va chercher en fait des preuves scientifiques pour amener vraiment solidifier sa méthode, amener des preuves sur l'efficacité de sa méthode. Et c'est peut-être ce que tu peux nous développer. Comment en fait la méthode a pris un poids international à partir du moment où la science a validé en fait les effets que la méthode apportait?
Alors, il y a eu plusieurs étapes, mais les trois cruciales, on va dire. La première, c'était en 2007, dans l'université de Feinstein, où en fait on l'a plongé dans un bain de glace et on a commencé à voir qu'il activait en même temps son système parasympathique, dont le repos, la digestion, et son système sympathique, c'est-à-dire le lutter ou fuir, le fight or flight en anglais. Et on a vu qu'il arrivait à le faire en même temps, c'est-à-dire qu'il était calme dans les glaçons pendant 2 heures, et qu'il avait autant d'adrénaline que quelqu'un qui est en train de faire un saut à l'élastique et à la fois qu'il était aussi calme, c'est-à-dire son rythme cardiaque très bas, sa pression sanguine très basse. Et, puis, et les scientifiques ont commencé à dire, et si tu arrives à reproduire ça de manière récurrente et avec d'autres personnes, ça change toute l'histoire. 5 ans plus tard, il le fait lui tout seul, et pour prouver qu'il peut lui influencer son... Et je vois souvent influencer son système immunitaire, non, son système autonome nerveux. Son système nerveux autonome. Et on l'a injecté avec une endotoxine. Pareil, on l'a pas injecté le virus, c'était une endotoxine, c'était le virus E. coli. Mais une endotoxine, c'est-à-dire que c'est une bactérie morte. Mais le système, il comprend pas, pendant 3 heures, il va avoir des symptômes pour combattre cette attaque, avant de se rendre compte qu'en fait, c'était une cellule morte. Et il l'a fait, et au moment où il s'est fait injecter, il faisait sa respiration, et il a eu aucun symptôme. Alors que tous les gens qui s'étaient fait injecter avaient de la fièvre, des tremblements, des maux de tête, des nausées. Pareil, donc là, ils se sont dit, attends, s'il est capable d'influencer son système nerveux autonome, et après j'expliquerai comment ça marche, ça veut dire qu'il est capable d'influencer son système immunitaire. Puisque les deux marchent en symbiose, en fait. C'est deux revers d'une même médaille, dans le sympathique, dans l'action. Le système produit énormément d'adrénaline, ça fait baisser l'inflammation. Et dans le parasympathique, et c'est pour ça que la méthode Wim Hof, la respiration Wim Hof, il y a deux parties. Quand on est dans le repos, la digestion, le corps se répare. Et c'est les deux balances du système immunitaire. Et comme au moment de faire la respiration, de se faire injecter, il était full adrénaline, et ben l'inflammation se baisse, ça baisse, et du coup, il avait pas de symptômes. C'est exactement, si je peux prendre un exemple, un truc qui vous arrive à tous. Mettons, vous avez une entorse et un rhume et un sanglier qui déboule dans votre salon. D'un coup, vous allez être capable de courir et vous allez plus éternuer. L'inflammation baisse, vous êtes prêt à l'action. Ouais. Par contre, il y a un moment, va falloir vous arrêter pour que l'inflammation revienne et qu'elle répare votre cheville et qu'elle enlève les pathogènes. C'est ça qu'il a montré juste en respirant. Il n'y avait pas de sanglier dans l'hôpital. Et après, ce qui a été fou, c'est que la conclusion, c'était qu'il pouvait influencer son système nerveux autonome. Par contre...
Et je crois que c'était la première fois que la science montrait qu'en fait, quelqu'un était capable d'agir volontairement sur la réponse immunitaire, en fait.
Oui. Oui. Dans l'ordre, c'était vraiment influencer son système nerveux autonome. Et par définition, c'était autonome. Et là, du coup, il est plus autonome. Et après, ils l'ont refait avec un groupe de personnes. Ils étaient 18. Il les a entraînés en Pologne 4 jours. Ils en ont pris 12 de ces 18 et ils ont pris un groupe contrôle et ils leur ont fait l'injection. Et le groupe entraîné par Wim a eu très peu de symptômes. Et le groupe qui n'était pas entraîné par Wim, il y a une vidéo sur YouTube, eux avaient des symptômes de fièvre et tout. Et là, c'était complètement, nouveau et accessible du coup à quasiment tout le monde. Un petit bémol, c'était que des hommes qui étaient déjà en bonne santé. Mais ça montre quand même qu'il y a une forte tendance. Et encore une fois, faut pas se tromper, c'est pas on n'est plus jamais malade, c'est on a des solutions pour contrecarrer les attaques des pathogènes, pour influencer son système nerveux autonome et du coup réguler son système nerveux. Parce que quand on est atteint d'un pathogène, d'une attaque, on n'est pas toujours en train de faire la respiration depuis une demi-heure et plein d'adrénaline. Donc ça s'adapte pas toujours. C'est pour ça que je vois des fois des trucs, ça y est, vous êtes plus jamais malade. Non, c'est pas la question. Vous allez être beaucoup plus régulé et du coup, par là même, moins malade. Et après, 4 ans plus tard, en 2018, il a carrément montré, ça j'aimerais bien développer plus tout à l'heure peut-être, il a carrément montré que il pouvait l'activer, pas par la respiration, par sa volonté. Et il pouvait influencer son système nerveux autonome et plein d'autres cascades de choses. Il a carrément régulé la température de sa peau par la simple pensée, la volonté.
Oui, là, tu peux expliquer l'étude, je pense. Tu peux rentrer en détail comment, à la force de son mental, il arrive à contrôler la réaction de température de son corps, quoi. C'est incroyable.
Ok. Alors, le La question, c'était justement, donc ils sont partis de ce principe, est-ce qu'il est capable de contrôler son système nerveux, pas par la respiration, parce que la respiration est liée au système nerveux autonome, ce coup-là, c'était avec le système nerveux central. Le système nerveux central, littéralement, ton cerveau. Et pour essayer de prouver ça, ils lui ont mis une veste perfusée et ils lui ont mis pendant 5 minutes de l'eau froide, après de l'eau chaude, après de l'eau froide, après de l'eau chaude. D'ailleurs, c'est le contraire. Ils ont commencé par l'eau chaude à 34 degrés, après de l'eau à 15 degrés, dans une veste, et ils mesuraient la température de sa peau. Et ils l'ont mis dans un scanner et une IRM, et ils ont regardé ce qui se passait dans son corps et dans sa tête. Le truc, c'est que la première fois qu'il a fait l'étude, ils avaient un groupe contrôle, et ben pour tout le monde, c'est assez simple. Quand l'eau chaude arrive, la température de la peau reste égale. La température de la peau était à 34. Dès que l'eau arrive à 15 degrés, la température de la peau descend. Elle va descendre, par exemple, à 33, 32, 31. Et quand ils ont fait WIM, donc c'était à Détroit, dans le Michigan, WIM a eu les mêmes résultats que tout le monde. Et il a commencé à dire au professeur, bah, je vais faire ma respiration. Il a des respirations où si on respire vraiment profondément et qu'on fait une contraction musculaire, on peut développer de la chaleur. Le truc, c'est que le scientifique l'a dit, si tu fais ça, ça floute l'image. Donc, tu peux rien faire. Et là, Wim, pour la première fois de sa vie, il a douté. Il a douté, il s'est dit, je peux réessayer demain. Et donc, ils ont dit, oui, tu réessayes demain. Et il pouvait utiliser aucune autre technique et il devait changer la température de sa peau. Et j'insiste sur le côté sa peau. Parce que la peau, quand il y a de l'eau froide qui tombe sur ta peau, normalement, ça baisse la peau. C'est même pas sa chaleur interne. Ça, à la rigueur, il aurait pu faire quelque chose avant. Là, il pouvait rien faire. Du coup, il a respiré le matin. Il a fait sa respiration une demi-heure avant d'aller à l'étude. Et il s'est vraiment concentré. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait pour battre tous mes records? Et en fait, il s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y a cru. Il a fait confiance littéralement à son corps. Et par exemple, il a gravi l'Everest en short. Ouais, normal. Et à un moment, il a perdu son chemin. Et à aucun moment, il a flippé. Il s'est dit, je fais confiance à mon corps. Je vais y arriver. Un jour, il a essayé de faire 50 mètres sous la banquise. Et il avait oublié, véridique, il avait oublié de mettre des lunettes. Donc, sa cornée a gelé. Et il s'est perdu. Il avait compté le nombre de brasses, mais il s'est perdu entre les deux trous. Et au moment où il n'arrivait plus à trouver le trou pour remonter, pareil, il s'est senti bien, il a fait confiance à son corps. Bon, là, c'est surtout, il a fait confiance à l'équipe de plongeurs qui l'a remonté. C'est un plongeur qui l'a remonté. Mais en gros, il a toujours fait confiance à son corps. Il y a que les techniques, c'est bien, mais la croyance, c'est plus important. Et il est retourné dans le scanner avec une volonté sans faille. Et ce coup-là, la température de sa peau, non seulement elle n'a pas baissé, mais elle a monté de 1 degré. Sur 25 minutes de chaud-froid, la température de sa peau est passée de 34 à 35 degrés. Et donc là, les scientifiques ont commencé à dire, ouais, là, on est sur du lourd. Et ils ont regardé ce qui se passait dans son corps et après dans sa tête. Dans son corps, c'est pas compliqué, le métabolisme augmente. Et pour faire très simple, il y a le foie qui pompe plus de glucose, qui délivre plus de glucose. Et le glucose est acheminé vers les muscles intercostaux. Et en gros, ils produisent de la chaleur avec l'oxygène et ils produisent plus de chaleur. Et il disait que c'est comme si ça pompait, c'était vraiment une centrale nucléaire à l'intérieur. Donc il a augmenté son métabolisme et jusqu'ici, ça paraît plausible. Je vous donnerai tout à l'heure des situations où en fait on le fait tous, sans le savoir, on le fait tous. Et après, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont étudié ce qui se passait dans son cerveau. En fait, ils se sont aperçus qu'il allait taper dans une zone du cerveau qui est vraiment à la base du cerveau, dans le cerveau reptilien, qui s'appelle la zone périaqueductale, PAG en anglais. Et en fait, cette zone est liée, c'est vraiment un réflexe primitif qui relâche les opioïdes et les cannabinoïdes. Et on y va tous, mais dans des situations d'extrême danger. Typiquement, un combat, à mon avis, un mec qui va faire du MMA, qui rentre dans la cage. Il sent moins les coups, il est vraiment dans l'ultra-instinct, sa température monte, il est plein d'adrénaline, et il a les antidouleurs. Les opioïdes sont liés avec la douleur, et les endocannabinoïdes sont régulés, et c'est ça le résultat de l'étude, c'est que les endocannabinoïdes, il en a produit plein, grâce à cette zone du cerveau, et c'est lié à la régulation de l'humeur. Et pour tous ceux qui ont fumé des joints, ils voient de quoi je parle. Quand on fume des joints, c'est exactement ça, sauf que c'est exogène au lieu d'être endogène. En fait, on fume du cannabis et ça nous descend la douleur, ça nous relaxe et ça nous monte l'humeur. Au début, après, si on en fume trop, un peu moins. Et il a montré, du coup, qu'il arrivait de manière volontaire, willful, ouais, volontaire, à influencer les parties du système nerveux, encore une fois, autonomes, parce que c'est des choses qui sont autonomes, normalement on peut pas y accéder sur commande, qui sont responsables de la régulation de l'humeur. Donc si... Oui.
Non, mais c'est ce qui est fou, c'est que bon, il y a des dizaines d'études qui amènent à des preuves à la méthode Wim Hof, mais ces trois études, c'est pour montrer que la première étude Wim Hof montre que, et c'est le premier à volontairement moduler la réponse immunitaire à travers son système autonome. La deuxième étude, c'est qu'il est capable de transmettre cette méthode et d'avoir les mêmes effets à un groupe. Et la troisième étude, c'est de montrer qu'en fait, à la puissance de son mental, il est capable de diriger les réactions de son corps. Et en fait, ça regroupe bien, en fait, parce que les deux premières études sont basées sur l'ensemble de sa méthode. Il y a le froid, la méditation, la respiration. Mais la troisième étude, vraiment, elle se situe juste sur la force de notre mental. Et je pense qu'on peut tous l'exprimer. On a tous une petite voix qui résonne dans notre tête. Et la façon dont on va pouvoir bien se parler ou au contraire douter de soi, être en manque de confiance en soi, ça va venir impacter notre propre corps et comment on va expérimenter la vie.
Ben l'étude, si on, alors ce ne serait pas reproduisible scientifiquement, mais ce qu'il a fait dans l'IRM, en gros, quand on lui a injecté de l'eau froide et chaude, ce serait la même chose que je vous fais traverser votre jardin et je vous arrose avec un tuyau d'arrosage froid. La plupart des gens vont faire comme ça, ils vont sentir le froid, ils vont se dire « qu'est-ce qui se passe ?» Si je mets de l'autre côté de votre jardin quelqu'un que vous devez sauver, un membre de votre famille que vous devez sauver parce qu'il est en danger, votre température corporelle va augmenter, vous allez libérer toutes ces endorphines, toutes ces hormones, et du coup, vous sentirez même pas le froid. Et en fait, tout le monde en est capable. Vraiment, tout le monde en est capable. S'il se passe quelque chose... et que vous devez courir, vous tapez les pieds dans un coin de table, vous sentez même pas, votre corps est prêt à l'action. Et en fait, c'est juste, est-ce que on y croit assez pour pouvoir le faire de manière volontaire? Et d'ailleurs, cette étude a été complétée par une autre étude en 2024, et ils l'ont fait sur un groupe test. Et c'est pour ça que le froid et la respiration ont quand même un effet, parce qu'ils ont fait une autre étude où ils ont pris un groupe de personnes et ils leur ont fait faire pendant 6 semaines une douche froide par jour et une respiration par jour. Et une fois par semaine, un bain glacé avec un instructeur. Pas Wim Hof, avec un instructeur. Et une respiration guidée. Qui sont plus puissantes, comme tu le sais, quand tu fais un atelier, les respirations sont plus puissantes que celles que tu vas faire les matins sur YouTube. Et sur 6 semaines, et après, ils ont testé justement ces cannabinoïdes, les récepteurs de ces cannabinoïdes. Et il y en a plusieurs dans plein de zones de cerveau. Et ils ont augmenté, leur densité a augmenté de 20%. Donc en gros, on augmente notre neuroplasticité sur des récepteurs de cannabinoïdes qui régulent l'humeur et qui régulent quasiment la plupart de nos fonctions. Ça va réguler la dopamine, ça va réguler la sérotonine, ça va vraiment réguler notre corps. Et c'est logique si on pense en termes évolutifs de l'évolution, on est fait pour le stress. C'est-à-dire qu'on est fait grâce au stress. On s'est construit l'évolution. Si on n'a pas de stress, on ne se développe pas. Donc, le moteur de notre moteur, en fait, c'est les challenges. Et plus tard, peut-être qu'on pourra parler du stress hormétique, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre l'étude de 2018 pour les gens se dire « Ouais, mais je ne pratique pas, je ne fais aucune pratique journalière et j'y arriverai juste par ma pensée. » Non. C'est grâce à des années d'expérience, mais a priori, grâce à cette nouvelle étude, ça ne met pas des années, ça peut mettre 6 semaines d'une pratique régulière où on modifie la plasticité de notre cerveau. Mais en fait, ça paraît super logique, c'est juste qu'ils l'ont montré. Quand on fait, Oui, non, vas-y.
Non, mais on peut partir sur l'hormèse. Je pense que c'est au centre du sujet. Tu vois, moi, je développe une expertise sur la longévité où je cherche tous les moyens pour me faire du bien. Le fait de s'entraîner à bien manger, s'entraîner à bien dormir, s'entraîner à faire du sport, savoir s'entraîner. Je vois la méthode Wim Hof comme une extension de ses moyens de bien-être. Et c'est aussi un entraînement. On reviendra, mais par exemple, si on prend le froid, plus on va s'entraîner, plus on va être progressif, plus on va avoir une résilience, une capacité à se connaître soi. Et donc, c'est l'hormèse. C'est plutôt le fait qu'on soit chroniquement sur des stress de notre société, de notre rythme de travail, de notre manque de sommeil. C'est notre corps est fait pour s'adapter, en fait. Ce que tu disais bien sur le système nerveux, c'est qu'en fait, il est fait pour passer d'un mode à l'autre. Il n'est pas fait pour qu'on reste toujours en sympathique. Et là, on va s'épuiser.
C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs un des maux de notre société. C'est que souvent, on est sur des longues plages sur le même mode. Et comme c'est un mode qui est pas très défini, si on était à l'état de nature, le mode est très défini. Soit il y a pas de danger, soit il y a un gros danger. Entre deux, on connaît pas, il y a pas. Souvent, dans mes stages, je prends l'exemple des enfants ou d'ailleurs des adultes qui mangent en regardant la télévision. Ça serait à l'état de nature l'équivalent de je suis en train de manger et il y a un lion qui déboule, qui va venir me manger. Mais puis je me dis, ah non, pas ce coup-là. Mais je reste quand même assis. Ça n'existe pas, un état de nature. Soit j'ai un danger, j'arrête de manger et je cours. Soit j'attends d'être vraiment au calme pour manger. Et quand un enfant, je crois que c'est encore plus sensible sur ça, est en train de manger, tu vois des bombardements, du stress. Et ça peut être d'ailleurs extérieur sur une télé, mais ça peut être des adultes qui se disputent. Ça peut être... On est littéralement dans un état qui est sympathique, alors qu'on est censé être dans un état parasympathique de repos pour pouvoir assimiler la nourriture. Et après, on se pose la question, pourquoi on a des problèmes de digestion? C'est juste logique, en fait. Ce serait la question, imagine, tu manges un kebab en sprintant. C'est pas possible, c'est évident, en fait. On dirait, mais t'es complètement bête. Tu peux pas sprinter en montée et manger un kebab, ou manger un kebab à la mi-temps d'un match de foot ou entre deux rounds de boxe. Ça serait, mais au final, on le fait quasiment tous les jours. C'est-à-dire qu'on est dans un état que le corps assimile comme parasympathique, on est assis et on a du stress, et du coup, comme c'est constant, le corps ne sait pas, le système nerveux autonome ne sait pas s'il doit tendre au sympathique ou au parasympathique. Et du coup, il sait pas, le système immunitaire ne sait pas, et ça fait un stress qu'on appelle chronique, et le stress est devenu quelque chose de péjoratif, alors qu'à la base, c'est super. On veut du stress, mais celui qu'on choisit, et qui est justement, et c'est la base du stress hormétique, c'est un stress volontaire, défini dans le temps et accompagné d'une période de repos qui est égale ou proportionnelle à l'intensité du stress. Et si on oublie une des deux parties, soit qu'on fait que du repos et qu'on se stresse jamais, on s'atrophie, le corps ou l'esprit. Si on fait que du stress, on n'a jamais ces périodes de repos et on fait quelque part un burn-out. Et c'est assez évident. Mais dans notre société, c'est assez difficile de naviguer entre les deux, puisqu'on a plein de situations. Pareil, si on conduit, on est soumis à plein de stress, alors qu'au final, on a la cool. Et c'est constant. Et le système nerveux se dit, attends, est-ce que c'est le moment de faire de l'adrénaline, de baisser l'inflammation, ou c'est le moment de réparer, là? Et en faisant la méthode Wim Hof, où toutes les pratiques, en fait, qui passent de l'action à l'inaction, typiquement la méditation, ça va juste plus vite, la méthode Wim Hof, mais la méditation, c'est ça, c'est de passer de l'action mentale à l'inaction.
Je voulais faire un petit point sur l'hormèse. Ce qui définit l'hormèse du traumatisme, c'est en fait la charge du stress. Hein. Si on fait un bain froid, par exemple, si on prend le froid et on fait 1h30 de bain froid, ça va être un traumatisme parce que ça va être potentiellement un danger pour notre corps et pour notre esprit. Mais si on vient doser le stress et l'appliquer régulièrement et progressivement, en fait, ça va pousser notre corps à surcompenser, à créer des adaptations. Et ça, on le retrouve dans toutes les pratiques. Tu disais la méditation, mais on vient clairement se créer une souplesse intellectuelle et psychologique quand on vient méditer, quand on vient faire du sport. Pareil, si d'un coup tu me dis on est parti pour 4 heures de running, bah c'est sûr que je vais me péter, je vais me blesser. Mais si on part sur une demi-heure de footing où c'est bien dosé, ben on va créer des adaptations. C'est toujours être clair avec la stimulation qu'on fait face.
Mmh, ouais, c'est ça. Et derrière, on peut rajouter justement le paramètre mental. Et c'est de plus en plus dans la méthode Wim Hof, avec cette étude de 2018, on met de l'emphase sur justement cet aspect mental. C'est très important que ça soit quelque chose de volontaire. Et de comprendre pourquoi on le fait, ça change tout. Parce que du coup, c'est quelque chose de volontaire, de voulu, et le résultat n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a plein d'études scientifiques qui peuvent quelque part pas être faites. Ou alors, il faudrait que tout le monde soit sur une ligne, qu'ils aient eu la même intention, mais ça, on peut pas vraiment le prouver. Deux personnes, une qui est convaincue qu'il va se faire du mal en rentrant et qui fait le bain froid en étant comme ça, en se disant, et une personne qui se dit, ça va me faire du bien, je vais arriver à me relaxer, je fais confiance à mon corps, les résultats seront pas pareils. La circulation du sang sera pas pareille.
Tu vois, Pierre, là, on a reçu la semaine dernière, on a reçu JB Morin, qui est un préparateur physique à renommée mondiale, qui était vraiment très passionnant. Et on parlait de renforcement en trail, tu vois, rien à voir avec le bain froid, la respiration et la méthode Wim Hof. Mais en fait, il nous disait d'être clair avec l'objectif. Qu'est-ce que vous venez entraîner ce jour-ci? Comment vous vous présentez? Quelles sont les adaptations que vous voulez créer? Et je pense que c'est pareil pour toutes les stimulations qui vont créer un bénéfice hermétique. C'est pourquoi je fais un bain froid? Pourquoi je vais faire cette respiration? Comment j'y accède? Ça, c'est vraiment ultra important d'être clair avec l'objectif. Et je pense que ce qui est vraiment important, hein, tu vois, le froid, si on se jette dans un bain froid, on peut être saisi et avoir une expérience qui est très négative, parce que on ne sait pas pourquoi on le fait, comment on s'adapte. Et donc, du coup, on passe d'une expérience qui est négative à une expérience qui pourrait être très bénéfique, parce que on sait qu'on va pousser notre corps à s'adapter. On sait qu'à travers l'intention, à travers la respiration, on va pouvoir calmer notre système nerveux. Et là, tous les bénéfices s'explorent.
Oui. Je vais prendre un truc, c'est un peu choc, mais... Si on parlait de relations sexuelles, le fait que ça soit consenti ou pas, le résultat, je pense que tout le monde où je vais en venir, est complètement différent entre le trauma et le bénéfice ou même le bien-être. Et pourquoi ce serait différent pour un bain glacé? Donc c'est vrai que quand je vois certains contenus sur Internet où c'est allez, allez, allez-y, où en fait les gens, tu vois, ils ont pas envie. Et on peut pas comparer ça avec ce qu'on fait dans la méthode humaine. Parce qu'il y a cet aspect, un mindset, et c'est la première chose qu'on dit, et j'imagine que toi aussi dans un atelier, c'est « et merci d'être venu, si vous voulez faire le bain froid, eh ben c'est génial, ce sera la cerise sur le gâteau, mais si vous le faites pas, sentez-vous pas obligé de le faire. Je vais essayer de vous convaincre, mais c'est vous qui allez faire votre propre opinion, et de se sortir, et d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant au niveau du cerveau, c'est pour ça que ce système nerveux, enfin l'aspect... mindset est très important au niveau du cerveau. Dans notre cerveau, on va dire le néocortex, tout ce qui est dans la pensée, on nous a mis plein de conditionnements. Le froid, c'est dangereux. Ma grand-mère, elle me disait, tu vas attraper la mort. Tu sors quand il fait froid, c'est quand même... C'est chaud, ouais, quand même.
Tout est dans le texte.
Tout est dans le texte. Et quand on respire, ou quand on médite, le sang va dans différentes zones du cerveau, notamment la zone du cerveau limbique, le cerveau des mammifères, où là, il y a nos émotions. Et potentiellement, avec la respiration, on va même dans les cerveaux, justement le cerveau reptilien, le cerveau de nos peurs. Et une fois qu'on s'enlève de notre conditionnement et qu'on est dans notre instinct, notre instinct, lui, sait que c'est dangereux si on y reste trop, mais si on fait confiance à notre intuition, et notre intuition, c'est le bain froid, c'est un environnement hostile, ça peut être bénéfique pour moi, mais je vais pas y rester 10 piges, et qu'on n'est pas dans tous ces conditionnements, le bain froid devient pas si difficile. Et quand on rentre dans le bain froid, on fait le trajet inverse, c'est-à-dire que là, on va directement taper dans le cerveau reptilien, ce qui est celui, littéralement, de notre primitif, quoi.
Survivre.
Fuir, survivre. Ensuite, on va dans le cerveau limbique, le cerveau des mammifères, le cerveau des émotions, et c'est pour ça qu'on voit souvent dans les bains froids, au début, après, waouh, des émotions, peut-être même pourquoi je paye pour faire ça, ou des fois c'est j'adore ma vie, des émotions, et après on repasse dans le cerveau pensant, Et là, vient les doutes, il reste combien de temps? Et c'est pour ça qu'en général, c'est 2-3 minutes. On passe vraiment par ces phases. Et à la fin, on comprend que toutes ces zones du cerveau marchent en symbiose. Et à force de faire ce trajet, c'est ce qui nous permet, quand par exemple on conduit et que quelqu'un nous coupe la route, on est en train de penser à notre liste de courses, et d'un coup on passe à notre cerveau primitif et on a envie de le tuer, le mec. Peut-être pas, en fait. Et à force de passer de l'une à l'autre, de ces zones, et ben en fait on est un être beaucoup plus complet. Et on va juste avoir la bonne réaction, donner le bon coup de volant au bon moment, l'instinct de survie. Par contre, on va pas avoir des émotions qui vont partir dans tous les sens parce qu'on s'en est libéré. Et donc, on crée pas un trauma au niveau corporel, mais pas un trauma au niveau mental. Et c'est littéralement une gymnastique une neuroplasticité d'aller d'une zone du cerveau à l'autre. Et c'est pour ça que la pratique du bain froid est très importante avec la respiration et le mindset.
Sur cette respiration spécifique à Wim Hof, parce que là, on va encore partir sur des anglicismes, parce qu'il y a beaucoup de toute la terminologie dans cette méthode et la base est en anglais, hein, l'enseignement est en anglais pour le moment, comme tu disais. Il y a plein d'ateliers, de workshops pour faire du breathwork. Là, ceux qui aiment pas les anglicismes, là, ils vont. Là, je vais recevoir des commentaires, mais il y a beaucoup d'ateliers de travail de respiration. Ça veut tout et rien dire. Comment s'y retrouver là-dedans? Comment savoir de quoi on parle? Parce que on voit des ateliers breathwork. Et c'est de la méthode Wim Hof, c'est autre chose. Comment s'y retrouver là-dedans et qu'est-ce qui différencie la méthode Wim Hof des autres méthodes de respiration?
Alors, la méthode Wim Hof, Wim n'a pas inventé la respiration, ni l'eau froide, ni l'eau chaude d'ailleurs, ni la machine à courber les bananes. Par contre, c'est lui, avec sa famille, qui l'ont mis ensemble, qui l'ont mis devant la science et qui ont pu en faire des protocoles qui sont adaptés à chacun et qui sont le plus efficaces. Et c'est quelque chose, la méthode Wim Hof, je dis souvent, il faut 5 minutes pour comprendre, c'est pas compliqué, tu fais 30 respirations plus profondes que d'habitude, et à la fin de la 30e, tu t'arrêtes de respirer poumon vide, et quand t'as envie de respirer, tu re-respires et tu bloques pendant 10 secondes. T'imagines bien que ça, couplé avec un bon marketing de la méthode Wim Hof, ça a été repris dans le monde entier. Je vous mets au défi, et je crois que je vous l'avais fait, Vincent, à l'académie, ou peut-être Bar, qu'on avait fait avec ChatGPT. ChatGPT, il te guide une respiration Wim Hof facile. Donc, ça a ouvert la porte à plein de personnes qui se disent « Mais attends, mais moi aussi, je peux faire ça. » C'est pas compliqué de guider une respiration. In, out, in, out, in, out. Arrêtez de respirer. Je mets de la musique un peu triste. Hop, vous respirez. Et du coup, sans savoir vraiment ce qu'ils font. Et après, il y a eu plein d'autres versions de la méthode Wim Hof. Et le breathwork, c'est carrément devenu une technique et qui est super. C'est un peu plus intense. Alors qu'en fait, le mot breathwork, si on fait l'étymologie, c'est le travail du souffle. Et la méthode Wim Hof, c'est le travail du souffle. Mais si on fait la respiration du feu, si on fait des respirations beaucoup plus lentes, si on fait des respirations plus genre holotropiques, c'est-à-dire beaucoup plus intense, c'est aussi cool. Tout est cool. Je vous mets au défi de faire une respiration Wim Hof et que ce soit pas cool. Et quand je dis respiration Wim Hof, c'est faites-le par le nez. Ou tout coule. Ou par la bouche, et où j'inspire même par la bouche, souffle par les fesses, ce que vous voulez. Le simple fait de respirer, de se connecter à votre corps, vous allez vous sentir déjà mieux, puisque la respiration, c'est comme la pompe, le diaphragme, c'est la pompe de l'énergie de notre corps. Donc, il n'y a pas besoin d'être un savant pour faire quelque chose qui a de l'effet. Et en plus, du moment qu'on respire, justement, il y a cet effet où le sang descend dans le cerveau, on accède à la partie émotion, et il suffit de mettre un peu de la musique triste, et les gens commencent à avoir des libérations, tout ça. Ce qui veut pas dire que... Je vais pas dire que c'est pas bien, parce que je pense que tout le monde devrait respirer, mais que la personne qui le fait comprend les enjeux. Et ça, c'est important, et c'est pour ça qu'il y a une formation Wim Hof qui est quand même assez longue, pour comprendre tous les enjeux derrière, et pouvoir calibrer pour tout le monde. Je vais vous prendre un exemple pour ça. Même Wim Hof qui fait de la respiration Wim Hof, mais c'est à la Wim Hof, c'est-à-dire qu'il part un peu dans tous les sens, et il va utiliser plein de techniques différentes. C'est pas toujours des cycles de 30 respirations, des fois il fait l'apnée, des fois non. Il connaît toutes ces respirations, il a fait 40 ans de yoga, donc il connaît plein de techniques. Une fois, on s'est retrouvé dans une salle à Cologne l'été dernier, on était 4000 et les gens sont assis. Là, il vaut mieux avoir un protocole. Parce que quand t'es 4000 et que les gens sont assis, si tu fais n'importe quoi, respirer pendant une heure, t'en as 4 au premier rang qui vont tomber, t'en as 2 au premier rang qui vont décompenser, t'en as derrière qui vont se barrer de la salle en hurlant je veux changer de vie. Enfin, et là, c'est cool d'avoir justement un protocole, et c'est pour ça que la méthode Wim Hof a fait une vidéo YouTube qui a fait des... Je crois qu'ils en sont arrivés au milliard, vu celle en anglais, elle a fait plus de 100 millions, mais si on cumule toutes les langues, ils sont arrivés au milliard, et avec 3 cycles de 30 respirations, et des apnées progressives de 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30. À 1 minute 30, on a vu qu'on avait la plupart des bénéfices de l'apnée, et du coup, ça permet de faire quelque chose d'universel. Ce qui veut pas dire que la méthode Wim Hof, bah, j'imagine, Pierre, quand tu as fait l'initiation avec Vincent, il a fait peut-être un peu plus que 30 respirations et peut-être un peu plus que 3 cycles. Parce que là, tu es avec un instructeur et qui sait ce qu'il va faire.
Et est-ce que justement, tu peux décrire le déroulé de cette respiration Wim Hof et quelles seraient les phases? Il y a ces phases d'hyperventilation, d'apnée, de rétention. Est-ce que tu peux décrire ces différentes phases et qu'est-ce que tu attends de ça?
Ok, alors donc, il y a 3 phases dans un cycle. La première, c'est une hyperventilation. On peut dire aussi superventilation parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément très rapide. C'est juste un rythme soutenu et circulaire. On va inspirer par le nez ou par la bouche. Pour la bouche, c'est plus intense. Donc, des fois, pour un débutant, c'est pas cool. Et on va expirer profondément, on va relâcher 30 fois. À la 30e, on va inspirer une dernière fois, on va relâcher, et poumon relâché, on va s'arrêter de respirer. Et parce qu'on a libéré beaucoup de dioxyde de carbone, on va pouvoir faire des apnées qui sont plus longues. Je vous expliquerai pourquoi après. Et on va faire cette phase d'apnée. En général, dès le premier cycle, les gens arrivent entre 45 secondes et 1 minute d'apnée. Et dès que notre corps a envie de respirer, il va nous le dire. On va inspirer, bloquer cette respiration pendant 15 secondes, et cette troisième phase est comme un sas de décompression pour pouvoir aller plus loin dans les prochains cycles. Donc, respiration, hyperventilation, mais contrôlée, pas... ça, c'est pas ça. Une apnée poumon vide, ou poumon relâché, et un sas de décompression où on inspire, et on fait ça pendant 15 secondes. Et ensuite, la respiration Wim Hof, c'est au moins 3 cycles. Et c'est pareil, c'est parce qu'on a testé, c'est à partir de 3 cycles que le pH commence à changer, qu'on a la plupart des bénéfices. Et bien sûr, on peut en faire plus avec l'expérience. Et voilà, ça c'est le protocole de la méthode Wim Hof. Et après, il y a plein de variantes, évidemment.
Tu vois, Léandre, on parlait de stress hormétique. Cette respiration Wim Hof, elle vient stresser notre corps par l'hyperventilation, par l'apnée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi on fait de l'hyperventilation, pourquoi on fait de l'apnée et qu'est-ce que ça engendre dans notre corps?
Voilà. Donc, comme vous avez compris, la méthode Wim Hof, c'est chaque fois un stress hormétique. Et souvent, misconception, c'est en français ou pas?
Incompréhension.
Mauvaise conception.
Mauvaise compréhension de pourquoi la respiration, c'est un stress. En fait, quand on respire plus que la moyenne, ou par le nez, notre oxygène commence à monter, mais notre saturation d'oxygène est déjà proche de 100%. On va être en général à 96%, donc ça monte à 100%, et ça bloque ici, potentiellement. Et on a le CO2, par contre, qui va descendre, puisque quand on souffle plus, le CO2 va descendre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre niveau de CO2 qui va nous donner l'impulsion de respirer, mais qui va aussi délivrer l'oxygène au tissu musculaire, au tissu de notre corps, on va dire. Et donc, du coup, quand on fait descendre l'oxygène, ça crée une hypoxie où les molécules d'oxygène restent bloquées aux globules rouges. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Et du coup, pendant un moment, nos cellules sont moins approvisionnées en oxygène. Et pendant la phase de rétention, le CO2 augmente. Mais il met du temps, donc on peut rester longtemps en apnée, puisque encore une fois, c'est le CO2 qui dit à la base de votre cerveau de re-respirer. Et pendant que le CO2 monte, l'oxygène commence à se délivrer aux cellules. Par contre, puisqu'on respire pas, l'oxygène descend dans le corps. Ce qui crée une deuxième hypoxie. Et hypoxie, il faut juste penser, moins d'oxygène qui arrive dans les cellules. Donc ça crée un stress. Et de manière encore plus simple, le fait de s'arrêter de respirer, et selon le nombre de cycles qu'on fait, nous met devant la peur la plus primitive, c'est le manque d'air, le manque d'oxygène. Et encore plus, le trop-plein de CO2. Parce qu'en fait, c'est pas le manque d'oxygène, c'est le trop-plein de CO2. Et du coup, ça crée un stress hormétique au niveau cellulaire, qui s'appelle l'hypoxie, et qui fait que parce qu'il y a moins d'oxygène qui arrive dans nos cellules, le corps, qu'est-ce qu'il fait pour essayer de se reconstruire plus fort? Il va essayer de produire plus de globules rouges, d'augmenter la capacité pulmonaire, voire tout simplement avoir plus d'échanges gazeux. Il va faire de ce qu'on appelle l'angiogénèse, c'est-à-dire avoir plus de vascularité dans le corps. Et ça va aussi produire, ça c'est à l'étude, mais c'est déjà le cas, c'est de l'érythropoïétine EPO. Et donc, du coup, le corps se reconstruit plus fort. C'est pas magique, mais c'est très bénéficiel. Et l'autre stress qui arrive dans le corps, parce qu'il y en a deux, en fait, il y a l'hypoxie, et aussi, et vraiment, ça c'est important, j'insiste, le stress, c'est pas parce qu'on se stresse la respiration, et là, c'est du stress. Non, ça n'a rien à voir, c'est un stress au niveau moléculaire.
C'est une stimulation.
Hein ?
C'est une stimulation, quoi.
C'est une stimulation, voilà. Ouais, la respiration doit être confortable. Si on fait, c'est pas bon. C'est ça, on mimique une situation d'hyperventilation où on réagit mal au stress. À part et close, le deuxième stress, c'est que quand le CO2 descend, et c'est la base de toutes ces techniques de breathwork, justement, où des fois ils font pas d'apnée, et ce qui est ok, mais c'est une différente technique, quand le CO2 descend beaucoup, le CO2 est lié avec notre équilibre acido-basique. Et du coup, moins on a de CO2, plus notre pH augmente. Et être alcalin, c'est plutôt cool, jusqu'à que tu arrives à un seuil où là, c'est moins cool, et le corps interprète vraiment ça comme un danger. Et du coup, ça crée un autre stress qui est à petite dose très bénéfique.
Ouais.
Et très bénéfique. Et donc, c'est vraiment... en anglais, on maintenant dit cross-adaptation, c'est-à-dire c'est une adaptation transversale. Ça crée plein de petits stress dans notre corps, et c'est ça qui est très important. Dans tous les stress de la méthode Wim Hof, on le fait de manière consciente et dans le calme. Quand on fait la respiration, j'imagine quand tu as fait, Pierre, la respiration avec Vincent, vous êtes allongé, vous étiez dans une ambiance, une bonne ambiance, avec une bonne énergie, et du coup, tu te stresses au niveau moléculaire, mais pas au niveau physique. Tu le sens, mais tu es dans un environnement sécure, alors et dans le bain glacé, même si tu vas dans le truc le plus insécure des glaçons, t'es dans un environnement qui est sécurisant. Et ce qui change tout, encore une fois, on parlait du trauma, que quelqu'un nous gueule dessus, respire. Allez, vas-y, repense à ton chien Toby qui est mort. Là, c'est pas une cross adaptation. Les effets d'époxy sont là, mais on va créer des fois des traumas, on va empirer la chose. Et pareil pour le bain glacé, oui.
Pourquoi ce serait de l'hypoxie s'il y a une hyperventilation, tu vois ?
Eh ben, c'est à cause de cet effet Bohr. C'est-à-dire que quand tu hyperventiles, l'oxygène plafonne assez rapidement, mais le CO2 descend rapidement. Et quand le CO2 descend, il ne faut pas confondre l'oxygène que tu ingères avec l'oxygène qui est délivré aux cellules. C'est complètement deux choses différentes. C'est pas proportionnel, en fait. C'est pour ça que toutes les autres techniques, par exemple Oxygen Advantage, je fais pas de la pub pour eux, mais c'est intéressant leur principe, c'est au contraire de faire monter ton CO2 pour que l'oxygène se délivre plus aux cellules. Parce que c'est quand le CO2 monte que l'oxygène se délivre plus aux cellules. C'est pour ça que si par exemple pour ceux qui courent, c'est mieux de respirer par le nez, jusqu'à que ça devienne trop stressant, mais c'est mieux de respirer par le nez parce que c'est une meilleure oxygénation. Les taux de CO2 restent plus hauts, et du coup, l'oxygène est plus délivré aux cellules. Que si, quand tu cours, tu fais... En fait, tu crois que tu vas inspirer beaucoup d'oxygène et décharger le CO2, et en fait, non, ce qui se passe, c'est que ton oxygène reste coincé parce qu'il a besoin de CO2, il reste coincé aux globules rouges, et il délivre pas aux cellules, parce qu'il interprète ça comme un stress. Donc, c'est pour ça que c'est assez... je sais que c'est assez contre-intuitif. Et pour peut-être faire une autre explication.
Ton niveau de CO2 qui va catalyser l'entrée de l'oxygène dans les cellules, et c'est différent de l'oxygène ventilé que de l'oxygène qui est vraiment ingéré, qui rentre dans tes cellules.
Oui, c'est les ça. Deux marchent en tandem, en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le premier stimulus de respiration, c'est pas parce qu'on manque d'oxygène, et ça, on pourrait faire le test même maintenant, si tu arrêtes de respirer. La pression que tu commences à ressentir, c'est le trop-plein de CO2. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin d'inspirer, j'ai continué à parler.
Tu pourrais préciser ça, ce trop-plein de CO2, pourquoi quand je m'arrête de respirer, il y a mon CO2 qui augmente?
Eh ben, parce que le corps produit du CO2 en permanence. Plus selon le niveau de stress, mais ton corps produit du CO2 en permanence. Et il a besoin d'être libéré, ce CO2. Donc, quand je m'arrête de parler et que j'arrête de respirer, mon taux de CO2 monte, ça devient inconfortable. Du coup, je manque pas d'oxygène. J'ai trop plein de CO2, c'est hyper inconfortable. Et c'est pour ça que quand on retient notre souffle, au début, pour se ressentir bien, t'as pas envie d'inspirer, t'as envie d'expirer. Si c'était l'oxygène qui nous manque, je m'arrête de respirer, je ferai. Et ça, non. C'est en fait le trop-plein de CO2. Donc en fait, tu souffles parce que tu t'expires ce trop-plein de CO2. Et quand tu cours, c'est pour ça que pour ceux qui font avec un scotch sur la bouche, c'est très stressant pour le corps au début. Mais on comprend tout de suite ce mécanisme qu'en fait, c'est le trop-plein de CO2. C'est pas que tu manques d'oxygène, c'est que tu as envie de souffler le CO2. Et plus on s'entraîne à faire ça, et c'est pour ça que dans la vie de tous les jours, il faut respirer par le nez. Et ça aussi, c'est un grand débat auquel je voudrais mettre un terme. C'est très facile. Le nez est plus petit. Ouais, il est fait pour respirer. On a les poils du nez, il y a toute une usine derrière pour aider à filtrer l'air, à
le réchauffer, humidifier.
Voilà. Donc, et les trous sont plus petits, donc c'est plus efficient le nez. Oui. Par contre, on a la bouche pour justement les situations qui sont plus stressantes. Et du coup, par exemple, un combattant du MMA qui s'entraîne avec un scotch sur la bouche. Donc, il augmente sa tolérance au CO2. Par contre, le jour du combat, il a intérêt d'enlever l'oxygène sur la bouche parce que dès qu'il se prend un uppercut dans le nez, t'as intérêt d'avoir ce mécanisme qui sert énormément. Et dans la méthode Wim Hof, tous ceux qui sont avocats que pour le nez se plantent complètement, désolé de dire ça, dans le sens où tu peux pas dire aux gens, faut respirer que par le nez et après les mettre dans un bain glacé. Parce qu'au moment du bain glacé, t'es dans justement cette activation du sympathique, et là, c'est les gens qui ont fait ça. Donc si toute leur vie, ils ont respiré que par le nez, et bah du coup, le moment où tu dois faire cette action, t'es bloqué. Et quand on naît, le jour de notre naissance, notre première respiration, elle est pas par le nez. Enfin, je crois pas. Et que chaque fois qu'on est confronté à quelque chose de vraiment puissant, il faut avoir ce mécanisme. Et de manière générale, dans la journée, essayer de plus possible de respirer par le nez ou la nuit.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code PODCAST10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Ouais. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais donc on a compris que la respiration, c'était pour mettre une stimulation, pour créer un stress hormétique, pour que notre corps s'adapte. Donc on a vu qu'il y avait l'oxygénation, le pH et tout ce que tu nous as expliqué. Mais comment je sais que c'est pas dangereux en fait?
Alors, dangereux à quel niveau? Oui, comment je peux te rassurer par rapport à ça? Oui.
Moi, j'ai jamais respiré. Tu me parles d'hyperventiler, de faire l'apnée, ça me fait un peu peur. Comment tu réponds à ça?
D'accord. Alors déjà, parce que la respiration, c'est notre télécommande, tout simplement, de notre système nerveux. Plus on respire fort, plus on va dans le sympathique. Plus on respire profondément, lentement et en expirant, plus on va dans le parasympathique. Et du coup, ces télécommandes, on règle l'intensité. Donc, plus on est débutant, plus faut commencer doucement, en sachant qu'il n'y a rien de dangereux, parce que si on déconne avec la télécommande, le corps, lui, a la télécommande. Donc si tu respires comme un bourrin, au bout d'un moment, si le maximum que tu pourrais faire, ce serait de respirer bien trop fort, et t'inquiète qu'il va la prendre la pause, ton corps. Et en fait, il va déconnecter pendant un moment, tu as une légère perte de conscience, c'est pour ça qu'on dit toujours de jamais faire la respiration, que ce soit Wim Hof ou d'ailleurs d'autres, tout ce qui est hyperventilation près dans un endroit qui n'est pas sûr. Et surtout pas près de l'eau ou près de dans un environnement qui est dangereux. Donc ton corps va se réguler lui-même. Et si c'est ça qui est magique avec la respiration pour toutes les personnes qui ont qui ont eu déjà des pensées suicidaires ou qui tout ça, notre corps est câblé pour respirer. Et la peur la plus primale, c'est le trop plein de CO2. Donc même si tu t'arrêtais de respirer, hein, tu te disais, bah, alors là, je respire plus. T'es obligé que ton corps, à un moment donné, va respirer. Donc, soit tu t'autorégules, toi, soit c'est ton corps qui va t'autoréguler. Du coup, il n'y a aucun danger, si ce n'est de perdre connaissance, parce que là, c'est ton corps qui va s'autoréguler. Et plus on pratique, plus on comprend, et c'est ce que tu disais tout à l'heure pour le stress hormétique, parce que je sais très bien que là, tu viens de te faire l'avocat du diable, et que toi, ça te fait absolument pas peur, mais c'est vrai que ça peut être une peur au début, c'est la peur de perdre le contrôle, en fait. Alors qu'en fait, on le regagne, le contrôle. Et on se détache aussi du « il faut que je ». À chaque fois, et j'imagine c'est pareil pour toi, aux participants, quand ils me disent « mais c'est trop rapide ou c'est trop intense », là, va plus doucement. Va plus doucement. Trouve l'intensité. Ce serait la même chose que si tu fais un cours de running et qu'au début, pas tout le monde va avoir la même vitesse. Et ce sera jamais dangereux parce que si tu cours trop vite, au bout d'un moment, tu vas être fatigué, ton corps va vouloir s'arrêter. Donc, autant pas aller chercher cette limite. Et souvent, ce qui fait peur, c'est beaucoup plus l'aspect mental. Et ça, je le comprends beaucoup plus. Que des fois, comme le sang, littéralement, l'énergie va dans des zones plus profondes du cerveau, on a accès, dans ce cerveau limbique, donc le cerveau des mammifères, on a accès à notre mémoire à long terme. Et plus on va dans ce cerveau des émotions et des mémoires à long terme, plus ça peut raviver des souvenirs, ça peut raviver des émotions, et parfois on en a peur. Et ça, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça qu'encore une fois, vous avez la télécommande, vous êtes en contrôle. Comme dit Wim, t'es le capitaine de ton cerveau et le maître de ton âme. Et si tu veux pas y aller, bah, tu fais plus doucement. Mais par contre, il y a forcément un jour où il va falloir y aller. Enfin, on est fait pour aller dans ces zones plus profondes du cerveau. Oui.
Vas-y, Pierre.
Oui, je pense qu'on a vu pas mal de choses sur le travail de respiration. Donc, on voyait ces différentes phases là d'hyperventilation, de rétention et après de récupération, avec trois cycles à enchaîner pour faire cette hypercapnie. Et donc ça, c'est la méthode de respiration spécifique. Hypo.
Et oui, c'est capnie, c'est le CO2. On descend le CO2.
D'accord. D'accord, pardon. Ok.
Hypoxie, moins d'oxygène, d'accord. Et hypocapnie, et après hypercapnie quand on respire, mais logiquement, c'est l'hypocapnie.
D'accord. Et du coup, ça, c'est il y a cette respiration spécifique Wim Hof. Il y a le côté immersion au froid qui paraît essentiel dans cette méthode, plus le travail du mental. Sur cette exposition au froid, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Parce que finalement, c'est contre-intuitif de s'exposer au froid. On parlait d'hormèse, c'est-à-dire d'adaptation. Quel type d'adaptation est-ce qu'on cherche à faire avec cette immersion au froid?
Alors, avant de parler de l'hormèse liée au froid, justement, la question, c'est comme on est en train de transiter de la respiration justement au froid. En fait, c'est la même chose dans le froid que la respiration. Au niveau du système nerveux, on s'active et aller dans le froid, eh ben, on est complètement en sympathique. Donc, déjà, la peur mentale, mais notre corps se met tout de suite en sympathique. Donc, il va relâcher beaucoup d'adrénaline, rien que le fait d'y aller. Et alors, une fois qu'on rentre dans le bain, là, on appuie sur la pédale d'accélérateur de notre système nerveux, le sympathique, qui est dans une situation très stressante. Donc, et le but, c'est de réguler notre système nerveux, parce que tout le monde y arrive, juste ça prend 1 minute à 1 minute 30, voire 2 minutes, 2 minutes 30 pour certains, selon le niveau de pratique. Et on va passer du sympathique, le plus haute activation du sympathique, comme si on sautait l'élastique, à une très haute activation du parasympathique. Parce qu'on va arriver à se relaxer. Et c'est pour ça qu'on voit dans les bains glacés au début, c'est... Et c'est pour ça que moi je dis souvent, je prends les photos qu'au bout d'une minute, parce que c'est le moment où les personnes passent de « Ah, oh, ça va !» Et donc, c'est cette adaptation qu'on veut refaire, encore une fois, entre notre action lutter, fuir, et relaxation. Et après, dans la pratique, une fois qu'on continue à pratiquer, le stress hormétique, il a plein de niveaux. Le premier, on peut parler du système cardiovasculaire. Et le fait d'aller dans le froid, ça va produire une vasoconstriction, c'est-à-dire une contraction des vaisseaux sanguins des extrémités pour acheminer le sang dans les organes vitaux, donc au niveau du tronc. Et ça, ça fait déjà une gymnastique. Donc c'est déjà un stress hormétique sur nos vaisseaux sanguins qui va nous améliorer la circulation. C'est une gymnastique qu'on fait très peu au final. Et d'ailleurs, parenthèse, mais c'est aussi pendant la respiration. Ça, on l'oublie aussi. Mais quand on est justement en hypocapnie, quand on a moins de CO2, on a aussi une vasoconstriction. Et la respiration prépare au bain glacé. Donc on a ce stress hormétique. On a le stress hormétique du coup au niveau de notre système nerveux. On a une grosse poussée d'adrénaline qui justement baisse l'inflammation. Et après, globalement, on a une meilleure régulation, puisqu'on se met à un stress du froid, une meilleure gestion du froid. Et pour ça, il faut pas rester à avoir froid toute la journée. Ça, je l'avais pas compris, mais je crois que mes premières années de la méthode Wim Hof, j'avais pas compris ça. Et ça, c'est le problème de la différenciation entre Iceman et Wim Hof. Wim Hof aime bien le chaud, il vit en Australie. Iceman, il a jamais mis un blouson. Mais c'était Iceman. Iceman qui fait des records du monde. Moi, j'avais pas compris, je croyais qu'Iceman, il se baladait en Antarctique toute la journée. Non, il a aussi cette balance. Pour justement, dans le stress hormétique, l'action, c'est s'exposer au froid. La récupération, c'est retrouver l'homéostasie par le chaud.
Et tu vois, dans le stress hormétique, donc créer l'adaptation, il y a doser la charge de la stimulation, et il y a aussi d'être régulier, d'être progressif. Peut-être que tu pourrais nous partager ce que tu t'avais partagé au week-end ou en Pologne, où toi, ton exposition au froid, tu as suivi Wim Hof pendant des mois, des années, et Wim Hof dans le froid, ben c'est le Iceman. Et toi, t'as eu aussi une charge, une exposition au froid qui était peut-être trop importante pour l'époque.
Oui. Oui, je me suis littéralement burn-out du froid, c'est-à-dire je me suis surchargé et j'ai fait une surcharge de froid parce que je me pensais invincible. Mais en fait, le froid, la nature gagne toujours. Et ce qui est cool, c'est que ça nous... je pensais être... Ouais, je pensais qu'il fallait j'allais toujours froid et que si je mettais une veste, c'était être faible. Et à force de faire ça, j'ai même fait une expédition avec Wim Hof en Pologne, où je suis parti, j'avais pas pris d'habit. Et j'ai eu la chance de tomber sur une instructrice avec qui je bosse encore maintenant, qui m'a dit, bah, tu veux faire le malin? Bah, vas-y. Et du coup, j'étais en short tout le long, même quand il faisait les explications dehors. Et j'étais un peu en mode, ouais, bah, les autres, ils mettent des blousons, mais c'est pas ça la méthode et tout. Alors qu'en fait, bah, c'est normal, elle fait les explications dehors, tu vas pas te geler 24 heures sur 24. Et j'ai fait ça, et j'ai essayé de tenir, mais au bout d'un moment, je commençais à voir que ça commençait à être bien trop. Mais là, on se confronte à notre ego, et justement, qui on pense être. Oui, mais Wim, il aurait jamais... Et puis je voyais que Wim, quand il passait, des fois, il me regardait, qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce que Wim, encore une fois, il aime bien le chaud, il a cette balance. Et quand je suis revenu de ce stage, au lieu d'être fier de moi et de me dire... Déjà, la montée en short, je pense qu'il y a le plus galéré, je l'ai pas montré, mais c'était terrible pour moi. Alors que dans mon groupe, j'avais des Indiens qui n'avaient jamais connu le froid, ils étaient beaucoup plus faciles que moi. Donc déjà, là, je me suis dit, attends, mais eux, en 4 jours, ils sont adaptés au froid qu'ils n'ont jamais connu, et moi, je m'entraîne tout le temps dans le froid, et j'ai plus froid qu'eux. Mais là, j'ai commencé à faire les maths, et après, j'arrivais plus à supporter le froid. Et ça a été détrimental. Justement, j'avais les mains en permanence froides. Même un courant d'air, ça me faisait flipper, vraiment. Et après, tu te confrontes justement, tu veux être instructeur, et tu te dis, mais attends, je vais être instructeur, mais moi, j'arrive pas à faire le froid. Et les gens te disent, oui, bah si, mais parce que t'es instructeur. Et souvent, quand on guide des expéditions, nous, on est habillés, les instructeurs, et les participants sont déshabillés. Ils me disent, oui, mais alors vous pratiquez pas. Non, c'est juste que là, t'es en train de travailler, et t'es en train de faire attention aux gens, et du coup, toi, tu te couvres, pour si eux, ils ont besoin, être présent. Et ça m'a mis des années, et surtout, Stacha, que tu as rencontré une instructrice qui m'a montré la partie féminine de la méthode Wim Hof, parce que le froid, c'est quelque chose de plus féminin que masculin. L'action d'y aller, c'est le sympathique, c'est l'énergie masculine, mais recevoir et se relâcher, c'est une énergie très féminine. C'est pour ça que les filles sont bien plus fortes dans le froid que les mecs.
Après, on est plus complète que ça. On a tous une part de féminin en nous, on le sait. Hein, mais et voilà. ça reprend aussi. Toi, donc c'était important que de préciser. On peut se laisser aller sur la compétition avec soi-même. On peut vite se brûler les ailes. Hein. Toi,
c'est du surentraînement.
Ouais, c'est du surentraînement.
En musculation, tu fais que du lourd, tu fractionnes 5 fois par semaine, c'est trop. C'est beaucoup trop.
Et le froid, faut le voir comme un entraînement. Et toi, c'est ce qui est arrivé, c'est que tu avais même du mal à te remettre dans des bains froids parce que tu étais en burn-out ou en surentraînement de froid et tu avais du mal à t'immerger pendant un moment, tu disais.
Ouais, complètement. En fait, j'arrivais à aller dans les bains froids parce que du coup, j'arrivais à réguler mon système nerveux. Ça, par contre, une fois que tu commences à t'entraîner, tu arrives à apparaître calme dans le bain froid. Je pouvais rester longtemps. Mais la question, c'est pas combien de temps tu restes dans le froid. C'est combien de temps il te faut pour te réchauffer. Et s'il n'y avait pas un sauna à côté, même 2 minutes de bain froid, je restais froid pendant très longtemps. Et on peut le voir même plus que... c'est plus que l'entraînement au froid, c'est l'entraînement de notre énergie vitale. C'est littéralement notre énergie vitale. C'est un peu, moi je le compare à les vieilles voitures, la batterie. Quand ta batterie est basse, tu n'arrives plus à démarrer. Et l'hiver, du coup, il faut avoir la batterie encore plus chargée pour pouvoir démarrer. Mais c'est exactement la même chose pour le froid. Il faut vraiment le faire avec diligence, avec bienveillance, pour justement pas se cramer et faire du surentraînement. Et à la fin, le résultat, c'est que tu as toujours froid. Oui.
Ce que j'avais bien aimé pendant l'atelier là, au sommet de l'hyper santé, Vincent, c'est quand on s'était immergé dans le froid, tu m'avais dit que ce n'est pas tellement le temps que tu restes dans le froid, c'est la rapidité avec laquelle tu arrives à te réchauffer qui va être importante. Donc c'est pas tellement une histoire d'ego de rester une heure dans l'eau froide, c'est même si forcément la durée pendant laquelle tu arrives à t'immerger est une donnée, mais c'est aussi cette capacité à se réchauffer, ça le cœur.
Mais là, moi j'arrive en Pologne, Léandre, et c'est la première fois que j'entends ça. Je suis au fin fond de la Pologne, fin novembre, il fait moins 15 000, et on me dit non mais c'est pas les 20 minutes ou le quart d'heure que tu vas faire dans la cascade polonaise. C'est le temps que tu as te réchauffé. Et moi, ça a été vraiment un truc game changer parce que je me suis dit, mais en fait, j'avais pas ça en tête, tu vois, que finalement, on se met dans le froid pour s'entraîner à se réchauffer. Et c'est vraiment la capacité, le temps que tu vas te mettre à te réchauffer qui va te donner l'indication si le stress a été OK ou trop important, quoi.
Bah ouais. C'est ça qui est intéressant parce qu'on reparle encore des énergies vitales. Une des techniques pour se réchauffer, c'est le horse stance, donc on va faire comme ça. C'est la position qu'on appelle du cavalier. Et donc, on est bas sur les jambes et on va essayer de faire des mouvements comme ceci pour se réchauffer. Et...
Donc, c'est des mouvements de bras un petit peu, hein, juste pour expliquer ceux qui écoutent juste le podcast. Parce qu'il y en a qui n'ont pas tous la vidéo, tu sais. Donc, c'était pour décrire un peu le mouvement.
Ah oui, donc c'est des mouvements de bras et c'est la position du cavalier qui inspire un peu du tai chi, quoi. On est bas sur les jambes, et en fait, la question, si tu restes, par exemple, 3 minutes, c'est ce qu'on conseille, 2-3 minutes dans un bain glacé, tu fais cette position du cavalier pendant 4-5 minutes, et t'es bien. Si tu restes 15 minutes, si t'as pas un sauna à côté, va falloir faire de position du cavalier pendant longtemps. Et on se rend compte, comme déjà, t'as ton corps qui essaye de monter le métabolisme pour essayer de produire de la chaleur, plus l'action mécanique, ça demande énormément d'énergie. Et est-ce qu'on a assez d'énergie disponible pour ça? C'est ça la question, en fait. C'est est-ce qu'on a assez d'énergie disponible pour ça?
Et tu vois, c'est pour ça qu'on l'assimile vraiment à un entraînement, le froid, la respiration. Parce que quand tu vas t'entraîner à faire ton sport, si tu as mal dormi ou si tu as eu une longue journée et que tu restes câblé sur l'entraînement que tu avais prévu sans adapter ça, bah, tu t'exposes plus à la blessure. Et le froid, c'est exactement pareil. Parfois, on n'est pas dans des disponibilités, que ça soit mentale ou physique, pour vraiment faire un bain très froid, un bain très long. Il faut savoir être honnête avec la fatigue dans laquelle on est pour s'exposer à la stimulation.
Oui, oui, oui. C'est ça. Et ce qui est important, c'est de garder... J'avais un instructeur, j'aimais bien, il avait cette phrase de garder cette relation de confiance avec son corps. Tu sais que si tu vas dans le froid, oui, mais tu as prévu le coup pour te réchauffer, quoi. Donc, du coup, si tu oublies, et moi, c'est ce que j'avais perdu, c'est qu'à chaque fois, même, tu sais, si j'étais en public, je pouvais pas faire genre 2 minutes. Parce que je me disais, non, il faut quand même que tu montres. Ouais, non, montre quoi. Tu montres que tu... Et après, tu essaies de... Tiens, mais c'est vraiment ça. Tu essaies de le cacher, tu vois, que en fait, tu n'as plus la circulation dans les mains et tout. Et, Et parce que j'avais, mon corps avait perdu la... Même si je faisais 2 minutes ou 3 minutes de bain glacé, mon corps pensait que j'allais lui faire encore une entourloupe et de rester plus longtemps, tout ça. Et donc, il savait pas trop comment réagir et ça se sentait. Et c'est, ça m'a mis vraiment longtemps pour moi de retrouver le nom de la marque de Wim à la base, c'était Inner Fire, le feu intérieur. Et c'est ça le but. C'est d'être chaud. Et après, il y a plein d'autres aspects mais sur lesquels je veux pas m'étendre parce que je suis pas vraiment spécialiste de ça. Mais après, l'alimentation, de tout ce qu'on fait pour notre énergie vitale, pour que ça circule bien. Les étirements sont cruciaux aussi. C'est pour ça que dans l'application de la méthode Wim Hof, il y a plein d'étirements. Ça aide pour le mental, mais ça aide aussi pour la circulation, tout simplement. Plus on est flex dans le corps, plus ça circule, oui.
Dans tous ces ateliers Wim Hof, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs niveaux de compréhension de la méthodologie. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans un atelier que quelqu'un, on va dire de lambda, quelqu'un comme moi qui fait un atelier Wim Hof sur un week-end d'initiation, quel va être le contenu je suppose que c'est le format, hein, sur un week-end de 3 jours d'initiation, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Parce que s'il faut que je fasse la respiration guidée et m'immerger dans le froid, qu'est-ce que ça va apporter le fait de faire l'atelier par rapport à moi le faire, par exemple, en autonomie, tu vois? Ça, c'est l'ego qui parle, hein. Mais pourquoi faire ça encadré alors que je pourrais le faire chez moi et...
Ce serait un peu la même chose que si quelqu'un me disait pourquoi j'irais voir un concert de Coldplay alors que j'ai l'album à la maison. Et je lui répondrais ouais, ou encore plus si t'es musicien, aller jouer directement avec tes musiciens préférés. Oui, mais j'ai mis l'album à la maison, je gratte. Déjà, t'as l'aspect juste énergétique, se retrouver dans un groupe. La respiration s'est amplifiée, plus il y a de personnes, plus c'est amplifié, c'est juste énergétique. C'est-à-dire que la respiration de groupe, c'est beaucoup plus puissant. Et le fait justement d'être guidé, donc ça t'enlève toutes ces micro-décisions que t'as dans le cerveau. Est-ce que je dois refaire un round? Est-ce que il y a combien de respirations? J'en suis à combien? T'es déjà guidé, donc tu vas forcément plus loin, plus l'énergie de groupe. Plus les explications qui te motivent entre guillemets, tu vois, parce que tu commences à savoir vraiment pourquoi tu fais ça. Et quand il se passe quelque chose dans ton corps, typiquement, je sais pas, tu t'expérimentes un peu des picotements ou un peu de la tétanie dans les mains. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la vasoconstriction, que c'est les ions de calcium qui ça crée une irritabilité des muscles, toutes ces choses qu'on explique. Ah oui, d'accord. Quand après t'es guidé dans un bain glacé, le fait d'être guidé, ça t'enlève déjà beaucoup de peur. T'as le soutien du groupe et t'as le quatrième pilier de la méthode Wim Hof, c'est justement l'aspect communautaire et l'aspect dont on parle pas assez, je crois, mais parce qu'en français c'est l'amour. En fait, tu ressens littéralement de l'amour. Et quand tu ressens de l'amour et que t'es tout seul sur ton canapé parce que t'as fait 3 rounds, bon, quand t'es dans un groupe, c'est bien plus puissant. Et c'est finalement ce qu'on recherche, c'est ce quatrième pilier, c'est la connexion de l'amour. Et je finirai par ça. On a plusieurs formats. On en a 4, à ma connaissance, ouais. C'est l'atelier fondamental. Donc là, on apprend les bases, et qui sont déjà assez soutenues. On expérimente la respiration, le bain glacé. Et la respiration, ça va être 4 cycles. On va aller doucement, des fois on va même faire par le nez pour que ça soit moins intense, tout ça. Ensuite, le format avancé. Donc dans les ateliers avancés, pour si vous en avez déjà fait avec moi, là c'est un peu plus, on va direct dans le pouvoir de l'esprit. Et la respiration, c'est pas 4 cycles, c'est beaucoup plus. On a d'autres techniques avancées qui s'apparentent à, il y a beaucoup plus d'époxy, beaucoup plus profond pour le corps. Bien plus aussi psychédélique. On a même une technique qui s'appelle power breathing, donc je peux pas parler, on peut pas l'expliquer sur internet, on peut l'expliquer avec vous, mais des techniques un peu plus avancées.
C'est ça qui est intéressant aussi de savoir, c'est que peut-être cette méthode, elle s'arrête pas, moi qui connais pas tout, mais ça s'arrête pas juste à cette respiration qu'on peut voir un peu partout et à de l'exposition au froid guidé. Il y a d'autres modalités de respiration qui sont contenues dans cette méthode.
Oui, oui. Et tout simplement, par exemple, une des différences, c'est que dans un atelier fondamental, je vais laisser les gens vraiment doucement, faire doucement. Dans un atelier avancé, c'est maintenant les mecs ou les filles, parce qu'il y a beaucoup plus de filles d'ailleurs en pratique. Bref, maintenant, on me suit. Et c'est plus, maintenant, c'est à vous de vous adapter au rythme, et le rythme est bien plus soutenu, et du coup, c'est bien plus profond. Et c'est pour ça qu'on a le troisième format, c'est le week-end, parce que ça va être très profond au niveau mental, enfin physique, mais aussi mental, c'est-à-dire qu'on va aller loin dans notre psyché, dans notre être. Et donc, on a le format week-end, où du coup, on peut laisser infuser. Et la connexion au groupe est encore plus grande. Et mon format préféré, moi, je tends à faire beaucoup plus ça. C'est le format semaine, où là, le fait d'ancrer cette pratique journalière, et on a le temps de voir plein de techniques différentes, et des techniques pour produire de la chaleur de manière interne, des techniques pour arriver à sentir certaines parties de son corps, et des respirations qui sont bien plus profondes. Et dans le côté intense, et dans le côté lent, on va faire des marches en montagne en short, on va se baigner dans les lacs gelés. Le bain glacé, c'est pas 2 minutes, ça peut monter jusqu'à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parfois, on rentre dans le bain glacé, on ressort, on rentre. Et dans ces semaines, moi, j'essaie de jamais faire du marketing, mais ça peut être transformateur. Genre, c'est quand même conseillé dans les semaines avec Wim de ne pas prendre de grandes décisions dans les 3 jours qui suivent la retraite. Pour donner une... Et c'est marqué dans les... Tu vois, à savoir. Parce qu'il y a des gens qui, littéralement, quittent leur boulot, qui changent de vie. Et ça, c'est souvent... On l'a plus dans la semaine. C'est pour ça que tous les formats sont... Il y a une progression.
Et puis, c'est l'expérience qu'on en fait, tu vois. Ce qui est beau dans cette méthode, c'est aussi quand tu fais un atelier, un week-end ou une semaine... Bah, tu pars avec des techniques où tu sais que tu vas te faire du bien, mais qui sont complètement différentes, qui rentrent dans un cadre de routine quotidienne où tu peux faire une respiration, tu peux faire une douche froide, tu peux aussi travailler ton mental et tu repars avec des techniques pour te faire du bien. Mais je pense de faire un atelier, un week-end, une semaine, c'est des expériences qui sont de plus en plus longues. Et même, c'est même pas l'apprentissage, je pense, de technique, Léandre, mais reprends-moi, mais je pense que c'est plus l'expérience personnelle de ce qu'on fait d'un temps plus long. Tu vois, là, moi, je fais des ateliers à Paris où j'ai eu des retours extraordinaires, vraiment des gens qui ont démissionné, qui vraiment me disent qu'ils s'en souviendront toute leur vie, tu vois, c'est des trucs de ouf. Mais je pense que c'est aussi ce temps, on crée un espace, on crée un temps pour se faire du bien. Et tu vois, tu parlais de love and connection, mais ça, j'en parle tout le temps. C'est la force du groupe. J'ai eu beaucoup de gens qui étaient réticents à se dire, ouais, moi, je veux pas le faire en groupe et tout, j'aime pas trop. Et ils repartaient avec une telle connexion à soi-même et à se connecter aux autres. Vu que c'est très expérientiel, ça crée vraiment des liens forts et c'est vraiment très beau. Hein.
C'est tout à fait ça. On peut le voir d'ailleurs dans les groupes WhatsApp. Souvent, dans les ateliers, on va faire un groupe WhatsApp au moins pour envoyer les photos. Et les groupes WhatsApp d'un atelier, en général, pendant peut-être 1 ou 2 semaines, les gens vont continuer à envoyer des messages et après, ça se dissipe. Dans les week-ends, peut-être quelques mois, dans les semaines, j'ai des groupes de 2019 qui s'écrivent encore des messages dans le groupe. C'est juste une expérience humaine, comme tu dis. C'est le côté vraiment humain qui est plus profond. Et un des trucs qui me sidère dans les semaines, c'est que le dernier jour ou même les 2 derniers jours, tu n'auras plus besoin d'un instructeur. Les gens, ils arrivent, les participants, ils déboulent, ils font leur respiration, instructeur ou pas. Ils ont envie, la pratique est déjà ancrée, en fait. Et moi, le but, c'est pas d'être... je crois qu'un instructeur, c'est... J'aimais pas le nom. Instructeur, ça fait professeur. Non, instructeur, en fait, on met une structure. Mais une fois que la structure est là, les participants, c'est clairement eux qui font l'énergie. Et à la fin, ils respirent tout seuls, c'est hallucinant. Genre, ils font le truc tout seul, le bain glacé, il n'y a plus besoin de regarder. Ils y vont eux-mêmes, ils veulent y retourner. À la fin, c'est même l'instructeur, des fois, qui n'arrive plus à suivre parce qu'il y a tellement de connexions et ça marche à chaque fois. Et indépendamment du nombre, nous, au Centre France, on essaie de garder les groupes petits, justement pour une question d'espace. Avec Wim en Pologne, on est monté jusqu'à 400 personnes. Ça marche, 400 personnes. Et ça, c'est dingue. Oui, bien.
Et ça, c'est Je pense que le truc le plus marquant, c'est le côté expérientiel de la respiration de groupe, justement de ces ateliers où il y a une respiration, une espèce de synergie qui se crée avec le groupe, que moi j'ai pu expérimenter. Ça, c'est assez fort. Et c'est peut-être ce qu'on peut avoir du mal à comprendre avec cette méthode aussi. Comment, après, quelqu'un qui sort d'un atelier comme ça, qui a appris cette technique de respiration et... quels seraient les conseils pour, une fois que tu sors d'un atelier, qu'est-ce qu'il y aurait à mettre en place dans le quotidien ? Tu vois, t'as fait l'atelier et pour toi, quelqu'un qui a compris l'essence même de cette méthode, qu'est-ce qu'il devrait mettre en place dans le quotidien ? S'exposer souvent au froid, faire du travail de respiration régulièrement, qu'est-ce que ça devrait changer ?
Alors là, je vais voir avec Vincent sur mes... Je crois que la régularité, t'en as parlé Vincent, je crois que c'est déjà le point le plus important, et la connaissance de soi, par la régularité. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va dire aux participants ? Je vais essayer de leur encourager, je crois qu'une habitude, ça met 21 jours, j'avais un livre dessus, on met 21, donc pendant au moins 21 jours d'essayer le matin de faire au moins 3 cycles, de faire des exercices justement de mindset, ça peut être une planche, ça peut être des abdos, ça peut être des exercices de yoga et une douche froide en y allant progressivement, de voir si on arrive à faire ça pendant 21 jours et de prendre des notes. Et en général, ben, forte chance qu'on intègre ça dans notre pratique. Parce qu'au final, ça, même en, c'est pas très chronophage, au final, ça met, quoi, 10-20 minutes, tout compris. Et ensuite, c'est une recherche, vraiment personnelle. Moi, j'encourage toujours. Et c'est pas parce que je travaille pour eux à télécharger l'application Wim Hof. J'en suis fan parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai pas commencé par un atelier. J'ai commencé par une vidéo YouTube. Mon exercice préféré, c'est les pompes Wim Hof, où on respire et on fait des pompes. Et après, j'avais l'application et tous les jours, je notais mes progrès. C'était important pour moi pour être, comment on dit, accountable, en anglais, c'est responsable. Peut-être tu te sens fier de toi et tu peux noter tes progrès. Tu dirais quoi, t'as Vincent aussi à propos de ça, de la routine ?
Ouais, je laisserai les gens expérimenter, tu vois, ce qu'ils veulent. Je sais qu'il y en a, ils adorent la douche froide. D'autres, ils vont prendre la respiration. Si je parle de mon cas personnel, j'ai vraiment exploré cette méthode très loin. Et je ne respire plus. Je vais faire de respiration avant de faire un workshop, tu vois, pour vraiment me recalibrer. Mais moi, la respiration, pour moi, elle a catalysé l'état méditatif. Et donc, elle m'a débloqué la méditation. Et depuis, moi, je médite tous les jours. Alors qu'avant, j'avais du mal à fermer les yeux et à ne pas réfléchir. Et donc, la respiration, c'est aussi un moyen actif où on va suivre ce rythme. Et ça va nous permettre d'avoir une expérience de conscience modifiée, d'avoir un état méditatif. Et moi, ça a débloqué voilà, une méditation que je fais tous les jours qui est très liée avec la respiration, mais qui sort un peu de la modalité de la respiration Wim Hof.
D'accord, mais c'est... de ce que j'ai noté, et je vois ça chez beaucoup de, même de pratiques, j'allais pas dire concurrentes, mais d'autres pratiques où la méthode Wim Hof, il y a pas mal de vidéos qui circulent sur Internet, on devient CO2 tolérant et du coup ça nous fait plus d'effet. Et en fait, c'est des learning curves, c'est-à-dire c'est des courbes d'apprentissage. Au début, la méthode Wim Hof, c'est une pratique interne et c'est une recherche vraiment personnelle. C'est d'arriver à sentir comment c'est dans notre corps. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de niveau au bout d'un moment. Ça plafonne très vite. Hein. Les rétentions, tout le monde arrive à faire 1 minute, 2 minutes, potentiellement 3 minutes. Le spectre est assez égal entre les gens. En fait, c'est la beauté de ça. Et au début, notre temps de rétention augmente. On se dit, waouh, génial. Puis après, ça plafonne assez vite. La douche froide, une fois qu'on arrive à 2 minutes sous la douche froide et qu'on arrive à se relaxer et pouvoir se laver les cheveux dedans, il n'y a pas de niveau supérieur. Je dis, on va pas rester 25 minutes dans la douche froide. On va pas voir nos veines s'augmenter comme les muscles. Donc, ça reste vachement plafonné. Et en fait, après, quand ça devient mécanique, c'est pour ça que... Et toi, je pense que tu en es là, Vincent, c'est que ça tourne sur d'autres choses. Et du coup, tu as moins envie de pratiquer la méthode Wim Hof. Et... Ce qui est OK, parce que tu vas plus l'adapter à ta vie, ce qui est en fait le but, in fine. Et après, il y a un moment, alors ça, j'espère que ça t'arrivera pas, Vincent, mais ce que j'ai remarqué, c'est parce que j'ai fait la même progression. Parce que oui, mais en plus, il me disait, respire que quand t'en as envie. Et après, le jour où j'ai commencé à avoir entre guillemets, des problèmes de vie. Enfin, et d'ailleurs, c'était en lien avec le centre où je suis devenu, je suis passé d'un participant à un instructeur. Et un instructeur qui a envie encore maintenant, j'ai envie d'être participant. Et quand je me suis retrouvé directeur de centre, moi j'avais l'impression que j'étais autant fait pour ça que fait pour être jongleur acrobatique. Et du coup, j'ai perdu toute ma pratique. Et en fait, j'avais ni envie de faire le froid, ni la respiration et tout. Et là, je me suis dit, c'est un peu comme dans Rocky, tu faut que tu reviennes aux basics. Et je me suis remis application, tous les jours respiration, pas d'excuses. Parce que si tu pratiques pas la méthode Wim Hof et que ta vie ça va super et que tu vas courir tous les jours, que tu vas nager, que t'es avec tes amis, que t'es plein d'amour, pas de raison. Par contre, si après tu commences à décliner, là j'ai repris et en fait ma pratique est devenue encore meilleure qu'avant et là j'ai l'impression d'être un débutant. Et ça suit une courbe d'apprentissage. C'est pas Dion Krieger au début, t'es idiot, tu crois qu'il sait tout. Après, tu commences à te dire, mais en fait, je crois la vallée de l'ignorance.
On doute.
Ouais, tu doutes. Et après, t'es le praticien éclairé. Et là, je vois vraiment, j'ai une piste devant moi de zone d'amélioration. Et c'est souvent lié à la conscience avec laquelle tu fais les choses. Et d'où les envies de commencer à méditer, les envies d'être conscient de ce que tu manges, des inputs, de ce que tu veux mettre à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est de la conscience. Parce que le niveau supérieur de la méthode Wim Hof, c'est mettre plus de conscience sur la respiration. Pardon. J'ai fait un tunnel.
Ouais, non, mais c'est parfait, Léandre. Franchement, je suis en complet accord avec ce que tu dis. Je crois qu'il y a quelque chose de discipline qui, moi, a été important chez moi. Et le fait d'avoir une récurrence, une régularité, c'est aussi se mettre une discipline pour soi-même. Et tu vois, il y a une question aussi de lâcher prise aussi, tu vois, d'acceptation, de faire par exemple la douche froide, c'est quelque chose qui est difficile, de se tenir à une pratique de la respiration Wim Hof, c'est pas évident tous les jours, mais cette récurrence, cette discipline, je crois que c'est fort dans la méthode. Et puis après, ça ouvre aussi la porte à quelque chose qui nous dépasse, de présence, de spiritualité. Je sais pas comment te le communiquer autrement, mais voilà, un voyage intérieur, c'est une porte d'entrée, comme il peut avoir d'autres portes d'entrée pour explorer. Tu vois, t'as parlé d'exploration personnelle, et je suis très en accord avec tout ça. C'est une magnifique porte d'entrée pour se connaître mieux.
C'est une porte d'entrée, et à la fois, c'est pour moi la méthode du match, je vois comme le début et la fin. C'est-à-dire que ça a été la porte d'entrée pour moi à plein de choses, genre de ouvrir aux autres, de toutes les pratiques. Maintenant, tout m'intéresse. Alors qu'avant, il n'y avait rien qui m'intéressait. Maintenant, j'aime les animaux, j'aime le développement personnel, mais dans toutes ses formes, le mouvement, même l'art. J'ai commencé à avoir en plus envie de... Là, maintenant, j'essaie de faire du chant. Enfin, c'est une porte d'entrée vers tout. Mais au final, et c'est ce que je vois avec Wim, c'est si je devais garder qu'un truc et que j'ai pas accès, évidemment, à un paradis où on est tous à l'état de nature, enfin où on est vraiment confronté, on est tout le temps à la nature, où au lieu de respirer, on peut juste aller courir sur la plage et nager, et être avec les dauphins, tu vois, un truc, franchement, je me mettrais pas à respirer, sauf en mode cérémonie avec des gens pour se connecter, mais voilà, dans le monde dans lequel on vit, si j'ai à choisir qu'une chose, et par exemple, chaque fois que je fais face à un challenge, typiquement, quand je me retrouve, j'aime pas spécialement parler en public, mais je me dois de le faire souvent quand je suis avec Wim. Bon, le matin de l'événement, je vais faire la même routine que j'avais au début. Respiration Wim Hof, pompe, douche froide, bim, je suis prêt à l'emploi. Et si je peux dire une anecdote sur la dernière fois que Wim est venu ici au centre, des fois on pose la question, mais qu'est-ce qui fait Wim que les autres ne font pas? Et on était tout un groupe d'instructeurs, il y avait Wim et son guitariste, et le matin je me lève, et donc ils avaient pris toutes les chambres du centre. Moi, j'en mets dans la salle de respiration. Donc, je fais ma respiration. Et quand je descends, j'entends Wim qui faisait sa respiration. Lui, il avait une chambre tout seul, mais on l'entend. On entend. Il fait pas de musique, rien du tout. Lui, sa respiration. Et je vais dans chaque pièce. Et tout le monde était en train de faire sa respiration à différents niveaux. Il y en a même un qui était tout seul. Il allait dans le sauna la faire parce qu'il trouvait pas un endroit pour la faire. Et on a tous fait entre 3 et 4 cycles. Du coup, peut-être un quart d'heure de respiration. Et on a fini. Après, on commence à boire le café et on entendait encore Wim. Et on a regardé montre en main 45 minutes. Et il s'envoie 45 minutes. Pas tous les jours, mais dès qu'il est face à un challenge, et beaucoup de jours, il a des challenges, et il s'est 45 minutes sans faillir. Et il déboule, et c'est lui qui a la plus grosse énergie vitale. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me sépare de ça? Bah, lui, il a mis 45 minutes. Et je pense que c'est pareil pour tout. Si tu prends quelqu'un, je sais pas, qui est super souple, et tu essaies de suivre sa routine, tu vas dire, ah ouais, d'accord, lui, il s'étire tant de temps, il dédie ça. Et après, c'est là où c'est simple, mais ça veut pas dire que c'est facile. Je mets au défi n'importe qui de faire 30 minutes, tu mets un chrono, 30 minutes, et tu fais des cycles. Sans musique, sans aucune distraction. Ça, c'est le niveau... Et tu restes avec ton souffle pendant 30 minutes. Pas facile. Et pourtant, c'est hyper simple. Ça paraît... Tu respires pendant 30 minutes. Bah, c'est... Enfin, même encore maintenant, j'y arrive pas si souvent que ça. Bon, jamais.
Bon, bah écoute, Léandre, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être que tu... Pour conclure, on a parlé de la respiration, on a parlé du froid... Et on va parler de l'engagement mental ou l'état méditatif. Je sais pas comment tellement le définir en français. C'est mieux défini en anglais, mais c'est un peu le pilier conséquence qui unit la respiration et le froid.
Le point de départ et la conséquence. C'est le point de départ. Sans un mindset, c'est un état d'esprit, moi je dirais. Sans
un état d'esprit. Ouais, c'est un état d'esprit. C'est bien, ouais.
Sans état d'esprit positif, je peux le faire, et c'est aussi à ça que sert un instructeur ou sert un ami, je peux le faire, je suis capable, j'ai déjà tout en moi, je vais pas interférer avec ça, d'ailleurs on en a fait un protocole, et j'y vais, je mets mon intention et j'y vais, je suis capable du coup de faire la respiration, et je suis capable de faire le froid, et le fait de faire ces pratiques te renforce ton état d'esprit, et ça fait un cercle vertueux en fait. Et comme je pense que vous le savez tous, enfin dans la vie, plus t'es positif, plus tu commences à attirer du positif, plus tu fais des choses positives, plus après. Et je crois que c'est ça la méthode Wim Hof.
Mais écoute, généralement on finit par un conseil à 1000%. Ça a l'air d'être ça, Léandre. C'est parfait. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, Léandre. Je te le redis, c'est grâce à toi. T'as été ma porte d'entrée à la porte d'entrée. Donc je te remercie encore d'être venu sur le 1000% et de m'avoir transmis tout ça. Vous pouvez me retrouver, moi c'est Vincent Pacton, donc du coup je fais des ateliers sur Paris. Donc, vous êtes les bienvenus pour être guidé sur Paris. Et puis Léandre, tu peux aussi faire ta promotion du centre Wim Hof France. Comment tu pourrais décrire ce centre magnifique?
Eh ben, de regarder Wim Hof Center France, Wim Hof Method Center France, le nom est en anglais parce que la compagnie, mais vous pouvez même taper sur Google le centre français de la méthode Wim Hof, c'est nous. Et je vous invite à venir un jour découvrir. Et si vous pouvez pas, de regarder, on a une chaîne YouTube et on fait des respirations guidées, tout ça, et c'est déjà pas mal, en espérant vous voir un jour au centre. Et voilà, mon but, c'est que plein d'instructeurs viennent à ce centre et que de ce centre, ça rejaillisse et qu'on soit aussi un exemple, pas que pour la France, mais pour plein de pays. D'avoir un centre et de s'unir autour d'une pratique. J'aime beaucoup le logo Wim Hof. C'est les trois piliers, on dirait un cœur. Et s'unir autour de ça, ça me paraît bien. Donc à bientôt au Centre France. Ouais.
Je vais essayer d'amener l'équipe 1000%, Pierre, que tu ailles un petit peu plus loin dans l'exploration. Et je pense à Alexandre qui est pas là aujourd'hui, j'espère, pourra découvrir un petit peu la puissance de cette méthode.
Et ben, j'approuve à 1000%.
Merci. Ah voilà. Ça, c'est une belle conclusion. Allez, merci, salut tout le monde, merci à tous, et puis mettez-nous les 5 étoiles, allez-y, likez.
Et oui, régalez-nous.
Faites-nous péter le...